Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 mars 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, manifestation à Bangui contre l'assassinat d'un jeune homme. Boko Haram soupçonné d'avoir attaqué un marché au Cameroun.
Deux éléments du Boko Haram sont venus en moto, je vous dis en plein marché, là où on vend le carburant. Ils ont tué deux militaires et un élément du BIR qu'on a égorgé. En plein jour, personne n'a intervenu.
Les puissances occidentales font tout pour que le référendum n'ait pas lieu en Crimée. Le mystère reste entier autour du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Mais il ne s'agit pas de la première disparition du genre.
La première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître.
Nous aurons aussi une visite du musée Kalakuta dédié au chanteur nigérian Fela Kuti. Sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
L'actualité centrafricaine, manifestation aujourd'hui au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui, la capitale centrafricaine donc. Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'assassinat la nuit dernière d'un jeune homme dans le secteur Le Point avec Timothée Donangmaï.
Venus des quartiers Bibale et Béarex, les manifestants ont érigé plusieurs barricades et brûlé des pneus sur l'avenue Boganda. Pour eux, les assassins du jeune homme sont sans doute des musulmans armés. Jérôme Kemba, un des mécontents.
Vraiment, nous avons assez marre dans notre secteur. Trop de morts dans deux ou trois jours. Les musulmans qui sont juste derrière le quartier Bibale sont venus tuer une maman folle. Ils ont tué encore un jeune homme dans le quartier. Et ce matin, nous avons vu encore un jeune dans notre quartier qui était tué. Raison pour laquelle nous avons révolté pour dire à notre gouvernement, depuis des temps, nous souffrons ici dans le quartier. Il y a trop de morts.
Ousmane Abakar, porte-parole des musulmans centrafricains, rejette en bloc ces accusations. Les gens veulent nous faire porter le chapeau pour rien. Les musulmans n'ont tué personne, a-t-il fait savoir. Les barricades ont été levées quelques heures plus tard par des soldats de la MISCA intervenus pour disperser les manifestants. Jusqu'en fin d'après-midi, la circulation n'avait pas encore repris sur une partie de l'avenue Boganda. Face à la persistance de la violence dans le pays, la présidente intérimaire Catherine Samba Panza a créé jeudi par décret un conseil national de sécurité, conseil qu'elle présidera avec le Premier ministre et qui se réunira une fois par semaine. Toujours à Bangui, le Parlement provisoire centrafricain a lancé officiellement aujourd'hui son dernier grand chantier, les travaux de rédaction du nouveau projet de constitution.
Ils sont de plus en plus nombreux à traverser la frontière camerounaise pour fuir le conflit en RCA. En un an, le Cameroun a reçu plus de 44 000 réfugiés de la Centrafrique. Les nouveaux arrivants vivent dans des familles d'accueil, des mosquées, des églises, stades et autres sites de fortune. Des réfugiés qui arrivent épuisés, sous-alimentés et malades au Cameroun. Djirasem Bayorem du HCR au Cameroun nous explique pourquoi.
Au cours de la fuite pour traverser la frontière, ils doivent se cacher des semaines dans la brousse pour ne pas être victimes des attaques et marchent des semaines aussi, voire plus d'un mois. Il y a des groupes qui nous ont dit qu'ils ont dû marcher 40 jours pour traverser. Donc les gens restent en brousse sans manger, sans boire et donc quand ils arrivent, ils sont pour la plupart malades. La semaine dernière, un groupe de 270 personnes ont traversé la frontière. Ils ont fait 40 jours de marche. Ils ont perdu 15 enfants, parce que ces enfants n'avaient pas mangé. Les milices anti-Balaka se trouvent un peu partout, donc il faut s'assurer du bon chemin à prendre. Et donc, pendant ce temps, on se cache dans la brousse. C'est pourquoi, d'ailleurs, elles prennent autant de temps pour pouvoir franchir la frontière.
Boko Haram accusé d'une nouvelle attaque au Cameroun. Les autorités soupçonnent la secte islamiste nigériane d'avoir pris pour cible un marché hier près de Kousseri à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. On compte au moins un soldat tué, Lionel Gaïma.
Les assaillants sont entrés au Cameroun à travers les frontières poreuses. Selon les habitants de la zone attaquée, ils ont tiré sur le soldat. Mahamat Djibril, un homme d'affaires, dit avoir été témoin de l'assaut.
Deux éléments du Boko Haram sont venus en moto, je vous dis en plein marché, là où on vend le carburant. Ils ont tué deux militaires et un élément du BIR qu'on a égorgé. En plein journée, personne n'a intervenu.
Awa Fonka Augustin, gouverneur de la région camerounaise de l'extrême nord, affirme que le calme est revenu dans la ville. Il pointe Boko Haram du doigt, mais le ministre de la Communication est resté prudent. Issa Tchiroma Bakari affirme que l'attaque est l'œuvre d'insurgés étrangers venant d'un pays voisin frappé par une crise religieuse. Mais il n'a pas spécifiquement nommé Boko Haram.
Il y a eu cet affrontement entre les Boko Haram et les forces de défense qui étaient sur place. Et à l'heure où je vous parle, l'ordre est rentré dans la ville. C'est l'occasion pour moi de demander aux populations d'être calmes, d'être assurées que les forces de défense sont là pour assurer leur sécurité.
Une fusillade a par ailleurs provoqué la panique dans un convoi de réfugiés tchadiens fuyant les violences sectaires en RCA. Certains redoutent de poursuivre leur voyage.
Nouvelle attaque à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Des tirs nourris ont été rapportés ce matin dans la capitale de l'état de Borno. Les islamistes de Boko Haram sèment régulièrement la terreur dans cette région. Armés d'explosifs, les assaillants ont pris pour cible une caserne militaire. Une riposte de l'armée a suivi. Le ministre de la Défense pense qu'il tentait ainsi de libérer des frères d'armes détenus dans la caserne.
Oui, les assaillants ont également mis le feu à des maisons et tiré sur des civils. À en croire les autorités, le bilan est lourd. Du côté des terroristes, elle compte 4 soldats blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée.
Dans le nord du Mali, l'enfant terrible du djihad, Omar Oud Hamada, aurait été tué par les forces françaises de l'opération Serval la semaine dernière. Originaire de Gossi, dans la région de Tombouctou, l'homme à la barbe teintée était un caïd du Mujaho. Sa tête avait même été mise à prix par les États-Unis pour 3 millions de dollars. De Gao, le reportage de Boubacar Touré.
Ce qui nous intéresse, c'est la pratique de la charia. On considère la puissance occidentale, la puissance européenne et la puissance orientale. Pour nous, ce n'est qu'une toile d'araignée.
C'est la voix de Omar Oud Hamada, très connu à Gao sous le nom de Omar en sardine, l'homme à la barbe teintée. Une source sécuritaire malienne confirme la mort de Omar Oud Hamada, mort survenue lors des frappes de l'aviation française dans le nord du pays la semaine dernière. On se rappelle que sa tête était mise à prix par les États-Unis d'Amérique pour 3 millions de dollars. Ce grand djihadiste est de nationalité malienne, originaire de Tombouctou, plus précisément de Gossi, où résident encore ses parents. Proche du chef djihadiste Mokhtar Ben Mokhtar, Omar Oud Hamada fut membre du groupe Ansardine à l'arrivée des djihadistes à Gao, puis devient membre du Mujaho, dont il devient porte-parole avant de créer sa propre katiba, Ansar al-Sharia. Il faut le rappeler, Omar Oud Hamada conduisait en 2009 le véhicule dans lequel ont été transférés 2 diplomates canadiens enlevés au Niger. Très connu pour ses fanfaronnades, Omar Oud Hamada a quitté la ville de Gao avant les premières frappes de l'aviation française. La mort de Omar Oud Hamada est une information à prendre avec des pincettes, puisque plusieurs fois on annonçait sa mort, mais réapparaît toujours. Gao, Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
Affaire des bérets rouges au Mali, l'ancien chef d'état-major de l'armée malienne Ibrahim Dayrou Dembélé a été placé sous contrôle judiciaire. Il devra se présenter tous les lundis au juge d'instruction.
Au Togo, les 5 partis parlementaires ont rencontré le Premier ministre. Des consultations posant la question suivante. Quel cadre pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo? Compte rendu avec Kayi Lawson, notre correspondante à Lomé.
Pour le parti au pouvoir unien, il y a nécessité de trouver un consensus autour des points de ces réformes, peu importe le cadre. Consensus, c'est ce que souhaite l'ANC de Jean-Pierre Fabre, qui estime que le Parlement est un cadre qui ne s'y prête pas, de par son caractère de la loi de la majorité. Un point de vue qu'épouse partiellement l'Alliance démocratique pour le développement intégral a dit souhaite un élargissement du cadre aux autres partis politiques, mais aussi à la société civile. Si, in fine, les propositions doivent passer par l'Assemblée nationale, la coalition Arc-en-Ciel propose la création d'un cadre ad hoc pour des discussions préalables, toujours dans un souci consensuel. L'Union des forces de changement est formelle, point besoin de discuter en cœur. L'UFC de Gilles Christ Olympio invite le gouvernement à prendre les résultats issus du cadre permanent de dialogue et de concertation CPDC et demande aux acteurs politiques d'y apporter des améliorations si besoin afin que les réformes soient faites dans les meilleurs délais. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, la Guinée fait appel à la France et à l'Union européenne pour détruire 100 tonnes d'armes de guerre obsolètes à Kindia, une localité située à 135 km de Conakry. Les deux partenaires participent à l'opération à hauteur de 600 000 euros. Les agents des mineurs français sont déjà à Conakry pour former les Guinéens. La mission doit durer 3 mois.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Malaisie affirme avoir élargi le champ de recherche du Boeing 777 disparu il y a une semaine. Le ministre des Transports a déclaré que des circonstances non spécifiées ont forcé à étendre la recherche à l'océan Indien, une zone pourtant située à des milliers de kilomètres de l'endroit où l'avion a disparu des écrans radars. Il indique que la recherche a également été étendue à des régions reculées de la mer de Chine du Sud. Les avions militaires indiens ont survolé les îles Andaman et Nicobar à la recherche de l'avion. La région est composée de plus de 500 îles, pour la plupart inhabitées et densément boisées.
Attentat suicide dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe visait un véhicule blindé de police à Sarban, près de Peshawar, non loin du bastion des talibans. D'après les autorités, le véhicule s'était arrêté pour faire de l'essence. Quand l'attaque a eu lieu, on compte 7 morts et au moins 28 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué. Rappelons que les pourparlers entre le gouvernement et les talibans sont chancelants.
Un cadavre bien embarrassant pour Pékin, un militant chinois des droits de l'homme qui avait refusé des soins médicaux est mort en prison après être tombé gravement malade. Cao Shunli est décédé dans un hôpital après que les autorités lui ont finalement permis d'être transféré. La dissidente de 52 ans souffrait d'une maladie du foie et de la tuberculose.
Voilà, un groupe américain de sécurité automobile affirme que 303 personnes ont été tuées dans la dernière décennie dans des accidents de voitures de General Motors dans lesquels les airbags n'ont pas réussi à se déployer. Le Centre for Auto Safety à Washington affirme que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que les 12 décès annoncés par GM et qui sont liés à un défaut dans les systèmes d'allumage de plusieurs modèles fabriqués entre 2003 et 2007. GM, le deuxième plus grand constructeur automobile au monde, après Toyota Motors du Japon, a déclaré que ces accusations du groupe de sécurité étaient de pure spéculation.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Bagessi Koura. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales font d'ultimes efforts pour que le référendum controversé sur le futur statut de la Crimée n'ait pas lieu. Mais les responsables de la République autonome ukrainienne font les derniers préparatifs pour le vote de dimanche sur l'opportunité de rejoindre la Russie. Cette crise a fait l'objet d'autres entretiens, cette fois-ci à Londres, entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Avant d'entamer leur pourparlers d'aujourd'hui à Winfield House, la résidence de l'ambassadeur américain à Londres, M. Kerry et Lavrov ont échangé des réflexions à ce sujet.
Obviously, we have a lot to talk about.
Évidemment, nous avons beaucoup à discuter. Je me réjouis de cette occasion d'examiner les questions et les possibilités que nous pourrions trouver pour aller de l'avant ensemble, résoudre certaines de nos différences et nous sommes impatients d'avoir une bonne conversation, a expliqué le secrétaire d'État Kerry. À présent, la réaction du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Eh bien, je suis également satisfait que nous ayons cette réunion aujourd'hui. La situation dans laquelle nous sommes est difficile. De nombreux événements ont eu lieu et beaucoup de temps a été perdu. À présent, nous devons nous demander qu'est-ce qui peut être fait. Le secrétaire britannique au Foreign Office, William Hague, a lui aussi affirmé que ses pourparlers sont positifs, tout en reconnaissant que la situation est difficile. Bien sûr, nous avons encouragé à la fois le secrétaire d'État Kerry et le ministre des Affaires étrangères Lavrov dans leur travail, Nous les avons encouragés à parvenir aujourd'hui à une percée diplomatique, à une façon de désamorcer les tensions, a dit M. Haig avant de poursuivre que malheureusement la Russie n'a pas pris des mesures réelles pour désamorcer les tensions et cela rend la tâche extrêmement difficile selon le secrétaire au Foreign Office britannique. Les dirigeants américains et européens qualifient d'anticonstitutionnel le référendum prévu en Crimée est appuyé par la Russie et le secrétaire d'État Kerry a averti Moscou qu'il y aura de graves conséquences si la Russie annexait cette péninsule ukrainienne. Mais les responsables russes soutiennent de leur côté que les électeurs de Crimée ont le droit à l'autodétermination suite à l'effondrement le mois dernier du gouvernement pro-russe en Ukraine. Et Moscou a reconnu jeudi avoir déployé des milliers de soldats et du matériel militaire près de la frontière ukrainienne. Tout cela pour des manœuvres militaires qui se poursuivront pendant 2 semaines.
Oui, cette question. Où est donc passé le Boeing 777 de Malaysia Airlines? Pour l'heure, le mystère reste entier. L'appareil s'est volatilisé depuis le samedi 8 mars dernier avec à son bord 239 passagers. Mais il ne s'agit pas de la première disparition d'avion. Jacques Aristide revient sur certains autres incidents qui laissent perplexe.
Ce n'était pas un avion, mais la première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître. Mais le cas peut-être le plus raconté jusqu'aujourd'hui, la disparition d'Amelia Earhart, la première femme à avoir volé en solitaire au-dessus de l'Atlantique pour ensuite disparaître dans le Pacifique en 1937. Autre date, autre mystère, le 5 décembre 1945, 5 appareils militaires décollent de la Floride. Plus tard, les pilotes ne trouvent pas où atterrir et sont contraints d'amerrir. L'un des avions partis à la recherche disparaît également, des incidents qui sont à l'origine de la légende du triangle des Bermudes. Et maintenant, un numéro de vol dit maudit, le numéro 191. Exemple, l'avion expérimental X-15, vol 191, s'écrase en 1967. Idem pour l'American Airlines 191 en 1979. Un crash et du cannibalisme, cela se produit en 1972. Un appareil uruguayen s'écrase dans les Andes, 29 morts, 16 survivants qui se nourrissent des cadavres des autres passagers. Polémique et interrogation, c'est ce qui a suivi la catastrophe du vol TWA-800 tombé dans l'Atlantique après son décollage de New York en 1996. Explosion en raison d'un court-circuit ou tir de missile accidentel, les questions demeurent. Dans l'Atlantique encore, un avion d'Egypt Air faisant le trajet New York-Le Caire s'écrase en 1999. Tous les 217 passagers et membres d'équipage périssent. L'enquête américaine blâme le copilote présumé suicidaire en évoquant son ultime vol. Mais les Égyptiens, eux, parlent plutôt d'une défaillance mécanique. Et pour clore cette liste non exhaustive, la disparition de l'Airbus A330 en 2009 dans l'Atlantique. À son bord, 288 passagers et membres d'équipage. Le rapport final indique la confusion totale dans le cockpit après la déconnexion du pilote automatique. La cause, des cristaux de glace ayant affecté les capteurs de l'avion. L'appareil de Malaysia Airlines rejoint donc ces disparitions les plus étranges, des énigmes encore à percer.
Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la planète, estime que la philanthropie, comme la technologie, dépend de l'innovation pour de meilleurs résultats. C'est ce qu'a déclaré le milliardaire hier à Washington. Selon lui, l'innovation est l'œuvre des entreprises privées, mais seuls les gouvernements peuvent apporter des améliorations sociales plus grandes. Michel Joseph nous en dit plus.
Beaucoup diront que les inventions de Bill Gates ont eu le plus grand impact sur la vie des gens au cours des dernières décennies. Il travaille à présent à améliorer la vie des gens dans d'autres domaines. Sa fondation, Bill et Melinda Gates, est en première ligne pour combattre la pauvreté et de nombreuses maladies mortelles. Devant l'Institut américain pour l'entreprise à Washington, M. Gates a expliqué que son travail philanthropique se concentre dans les domaines dans lesquels les gouvernements ne peuvent pas couvrir.
There are things in terms of trying out social programs in innovative ways.
Cela concerne de nouveaux programmes sociaux que le gouvernement ne peut pas, de par son mode de fonctionnement, mettre en œuvre de façon innovante, essayer de nouvelles choses comme le fait la philanthropie. Les gouvernements n'ont pas les ressources en temps et en argent pour y arriver, comme le peut la philanthropie. Bill Gates explique que les œuvres caritatives jouent un grand rôle en Amérique. Il observe que les universités produisent les professionnels les plus brillants qui, en retour, apportent un soutien financier à ces universités. Selon lui, les institutions de fonds privés produisent aux États-Unis des inventions qu'aucun gouvernement ne peut produire. Exemple, avec la fondation de la Marche des Centimes et son combat pour éradiquer la polio. Cette fondation a financé le développement de deux vaccins. Cette fondation a créé le vaccin contre la polio, ce qu'on utilise pour éradiquer cette maladie, qui est la deuxième maladie en voie d'éradication après la variole. C'est un vaccin contre la polio. Ce sont 10 doses qui coûtent 1,30 $ par enfant. Ça, c'est l'argent de la philanthropie. Mais Gates affirme que la philanthropie ne peut pas substituer au gouvernement pour accomplir de plus grandes améliorations sociales dans le domaine de la santé publique, l'éducation et l'emploi, entre autres. C'est le rôle du gouvernement d'agir pour une vie meilleure, a-t-il souligné.
Kalakuta Museum, musée situé à Lagos au Nigeria, est dédié au grand musicien nigérien Fela Anikulapo Okuti. C'est l'ancien domicile de Fela, la fameuse Kalakuta Republic qui a été transformée en musée sur 3 étages grâce à un financement de l'État de Lagos. Ce musée, véritable mausolée à la gloire de Fela, retrace son parcours musical, sa vie personnelle mouvementée ainsi que son engagement politique. Au micro d'Ali Kabré, notre correspondant à Lagos, Obi Okoli.
The major difference is right now is a museum, whereas before it was actually Fela's residence.
La différence majeure, c'est que l'ancien domicile de Fela a été transformé en musée. Aujourd'hui, Fela n'est plus et plus aucun membre de sa famille n'habite ici. C'est maintenant un musée, mais tout le dispositif est resté le même. La chambre de Fela est toujours là, sa douche, ses habits, tout est resté intact. C'est un peu comme s'il était juste sorti pour revenir.
Quels sont les genres de personnes qui viennent ici généralement?
Tourists come here, journalists. You also have people who are politically inclined.
Les touristes viennent, mais aussi les journalistes et puis les personnes intéressées par la politique, elles viennent chercher une sorte de motivation. Grâce aux journaux de l'époque, elles revivent les problèmes traversés par Fela jusqu'au procès qu'on lui a intenté et les gens viennent vraiment ici en quête d'inspiration.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont impressionnés par la vie de Fela et qui voudraient venir visiter ce musée, Kalakuta?
As far as the history of the black man is concerned, the Kalakuta Museum plays a very vital role in anybody's research. Because Nigeria being the most populous black country.
Si vous vous intéressez à l'histoire de l'homme noir, le Kalakuta Museum est un arrêt obligatoire. Le Nigeria étant le pays le plus peuplé de noirs dans le monde, et Fela ayant été un fer de lance pour l'émancipation de l'homme noir, il est plus qu'indiqué pour toute personne qui entreprend ce type de recherche sur l'histoire politique de l'homme noir de venir au Kalakuta Museum. Parce que les connaissances que vous allez acquérir ici vont vous permettre réellement de comprendre ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer au Nigeria et dans la diaspora.
Oui, l'heure des sports sur la voie de l'Amérique. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Bagassi.
On commence par du football et les femmes qui sont à l'honneur ce soir avec le coup d'envoi de la Coupe du monde de football des cadettes.
Et oui, cela se passe au Costa Rica et le pays hôte affronte le Venezuela. Les Zambiennes auront fort à faire face à l'Italie. Quant au Ghana, il sera opposé à la Corée du Nord. Enfin, l'Allemagne joue contre le Canada.
Et parlons à présent de ce coup de tonnerre dans le foot allemand.
Et oui, Uli Hoeneß, le président du Bayern Munich, condamné hier à 3 ans et demi de prison ferme pour avoir fraudé le fisc de plus de 28 millions d'euros, a annoncé sa démission du prestigieux club de football bavarois. Il a également indiqué qu'il renonçait à ce pouvoir en cassation, acceptant de facto de purger sa peine de prison.
Voilà, et Sochi, c'est bien fini, hein, mais il faut déjà penser aux prochaines Olympiades de 2022.
Et les 5 villes en course pour les Jeux d'hiver de 2022 ont bien fait parvenir au Comité international olympique leur dossier de candidature. 5 candidates donc, Lviv en Ukraine, mais aussi Oslo, Cracovie, qui est la tête d'affiche d'un duo Pologne-Slovaquie, Almaty qui est au Kazakhstan et Pékin.
Et enfin, Timothée, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Et oui, Bagassi, avec 13 points, 10 rebonds, 9 passes et 2 interceptions, Joachim Noah a été le grand artisan de la victoire de Chicago contre Houston hier soir, 111 à 87. Nouvelle défaite des Lakers, 102 à 131. Les Lakers sous Kobe Bryant est toujours sur le banc de touche. Les Lakers donc ont été battus hier soir par Oklahoma City. Enfin, Atlanta a battu difficilement Milwaukee, 102-97.
Voilà, c'est tout pour l'espoir. Merci Timothée Donamay.
Voilà.
Voilà le monde aujourd'hui, c'est bientôt fini et comme tous les soirs, on se quitte en musique et Roger Muntou est déjà en studio, salut.
Salut Morgane, Mauro Ramos de Florencio, connu sous le nom de Ramito, était un célèbre chanteur portoricain. Sa chanson « Que bonita bandera » a tellement eu du succès au point où plusieurs artistes, Morgane, ont fait des remixes. Hein. On écoute en ce moment « Que bonita bandera ».
Que bonita bandera, 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 que bonita bandera,
la bandera puertorriqueña.
Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera,
qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña.
Que bonita bandera, Roger, vous parlez un peu espagnol, il faudra nous expliquer.
Que bonita bandera, Bagassi, comme on dit, nice flag, un drapeau, enfin, en parlant de drapeau portoricain, hein, un drapeau qui est tellement, tellement respecté, c'est ça, que bonita bandera, un bon drapeau, voilà.
Voilà, donc je précise hein, que là, c'est la version remixée hein, de Que bonita bandera, la version de Revolution.
Mm-hmm, merci.
Voilà, et Ramito, je précise aussi, chantait déjà à l'âge de 13 ans pour gagner de l'argent.
Oui, Morgane, ses parents étaient très pauvres et le petit Ramito s'y sont-ils obligés, hein, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins de la famille. Il est évidemment devenu très populaire vers les années 60. Il était l'icône de la musique portoricaine.
Voilà, donc c'était donc Que Bonita Bandera de Revolution. Merci Roger.
De rien Morgane.
Alors Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show tous les soirs à 20h, temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec
et Bagassi Koura.
On se retrouve lundi.